Vieillir vivant, il faut vieillir entouré de gens, ensemble.
Une fois par mois, Vieillir vivant vous invite à questionner la prise en charge du grand âge dans la société actuelle. Autour du micro des membres de l'association Carton Plein, professionnels, habitants et experts, hommes et femmes, nous donnent du grain à moudre pour interroger les idées, les formes, les dispositifs publics et les infrastructures qui façonnent notre imaginaire de l'âge. Cette série de rencontres en ligne est réalisée dans le cadre de Vieillir vivant, un programme de recherche-action pluridisciplinaire soutenu par la CNSA et ancré dans 6 territoires en France.
Deuxième épisode, Vieillir chez soi, oui mais comment ? Avec Isabelle Malon, sociologue à l'Université Lyon 2, Jean-Benoît L'Héritier, artiste au sein de la compagnie La Trouée et du spectacle Marionnette à domicile, Claire Autant-Dorier, enseignante-chercheur au centre Max Weber, et WeMove, un projet de mobilité inclusive.
J'ai pas beaucoup de temps, hein, j'ai 7 minutes pour vous dire 2-3 choses sur la manière dont la sociologie considère le vieillissement. Et en fait, ce qui m'intéresse, moi, en tant que sociologue, c'est de regarder comment on vieillit, à la fois de manière très commune et de manière un peu singulière, aux différents âges de la vie. Comment est-ce qu'on avance en âge aux différents âges de la vie ? Et en fait, considérer le vieillir en sociologue, ça veut dire qu'on le resitue dans une temporalité biographique et on le resitue toujours comme pris dans un vieillissement tout au long de la vie, donc un vieillissement quelque part avant la vieillesse ou avant le grand âge, en montrant comment les manières dont on vit modèlent ou façonnent nos vieillesses. Et donc, en fait, moi, ce à quoi je suis assez attentive dans mes travaux, comme des tas d'autres sociologues, c'est sur l'idée qu'on vieillit avant d'être vieux, que nos conditions de vie, les différents contextes dans lesquels on habite, les différents quartiers, les communes, les hameaux, nos domiciles, mais aussi nos activités professionnelles, bénévoles, nos loisirs, nos entours familiaux, nous façonnent tout au long de notre vie et constituent, selon les contextes, selon les moments de notre vie, à la fois des ressources et des handicaps dans nos manières de vivre et dans nos manières de vieillir. Et donc, il y a bien cette idée qui a déjà été évoquée par les uns et les autres, que, en fait, moi, ce que je propose, c'est de désarticuler en partie la confusion entre vieillir et grand âge. Le vieillir, ça ne concerne pas que les gens au bout de leur vie, comme disent les jeunes, mais ça considère, voilà, c'est pas qu'une question du grand âge, c'est une question qui se pose à tous les âges de la vie, avec des manières communes parfois de la pensée, et puis aussi des manières singulières. Il ne faut pas négliger les manières singulières de poser cette question à 102 ans, à 80 ans, à 60 ans, à 45 ou 49 ans. C'est mon âge, j'ai oublié de l'indiquer, mais là, maintenant tout le monde le sait. Et donc, insister sur le fait qu'en effet, la vieillesse est toujours relative. Et d'ailleurs, moi qui ai des enfants d'âge varié, très souvent ils me disent: quand j'étais jeune, tu vois, je ne raisonnais pas pareil. Et donc, il y a bien cette idée de l'avancée en âge. Et puis, ils me disent très gentiment: maman, t'as pas trop mal vieilli jusqu'à présent. Donc, il y a bien cette idée qu'il n'y a des vieux que parce qu'il y a des plus jeunes. Et d'autre part, ce sur quoi je voulais insister avec la sociologie et avec la démographie, c'est sur le fait que nos manières de vieillir, elles sont plurielles. Elles sont plurielles. Et ce que regarde la sociologie, c'est cette pluralité selon les différences et les inégalités. Alors, on en a rappelé, Odile Plan l'a rappelé tout à l'heure, il y a des inégalités et des différences de genre qui sont très fortes et qui colorent, en fait, et qui structurent nos manières de vieillir. Mais il y a des inégalités très fortes de classe sociale, c'est évident, dans la morbidité et dans la mortalité différenciée. On vit plus longtemps, plus on monte dans la hiérarchie sociale et plus on vit plus longtemps. Selon les inégalités qu'on appelle ethno-raciales, les situations de migration notamment, selon les inégalités territoriales aussi. Et donc ces différences, ça implique des inégalités d'accès, évidemment, à différents biens et services, dont des services de santé ou d'aide et d'accompagnement à domicile, mais aussi à différents cercles, à différentes activités sociales. L'offre de loisirs des villes, par exemple, n'est pas la même que celle des campagnes. Et puis, à des pratiques différentes. Et ce que propose aussi la sociologie, c'est de regarder les personnes vieillissantes dans leurs différents âges, à la fois comme des personnes qui peuvent présenter des vulnérabilités et comme des personnes qui disposent aussi de ressources, de forces, de supports, qui sont des supports à la fois externes, qui sont liés à ce qu'elles ont pu accumuler au cours de leur vie. Alors, elles ont pu accumuler de l'argent, elles ont pu accumuler des relations, elles ont pu accumuler des expériences qui font que elles ont des ressources aussi pour faire face notamment aux inattendus de la vie ou à des choses attendues, mais qui sont en fait des épreuves, notamment dans cette dernière partie de vie. Et de ce point de vue-là, c'est sûr que le chez-soi et le domicile est sans doute un support important parce qu'il porte dans ses espaces, dans sa matérialité, dans les objets qu'il compose, dans les personnes qui le peuplent, les traces de notre existence, les traces de la singularité de notre existence, et qu'il constitue donc un rappel constant de ce qu'on est par les traces de ce qu'on a vécu. Et parce qu'en fait, la familiarité des objets qui construisent notre chez-soi contribue à tout âge à notre équilibre psychologique, à un sentiment de plénitude de soi. Et c'est ce que dit notamment un sociologue classique, durkheimien, qui s'appelle Maurice Halbwachs, dans un ouvrage sur la mémoire collective, dans lequel il dit « les objets matériels avec lesquels nous sommes en contact journalier ne changent pas ou changent peu et nous offrent une image de permanence et de stabilité. C'est comme une société silencieuse et immobile, étrangère à notre agitation et à nos changements d'humeur, qui nous donne un sentiment d'ordre et de quiétude. » Et donc, il y a un côté, entre guillemets, soutenant de permanence qui est lié au chez-soi, d'autant plus quand on avance en âge. En fait, plus on avance en âge et moins on change de domicile. C'est-à-dire qu'on déménage beaucoup dans les premiers temps de sa vie, dans les premiers temps de son parcours de vie, et beaucoup moins quand on avance en âge. Et un des risques peut-être de cet ordre spatial du chez-soi, c'est qu'il pourrait entraîner des formes d'immobilisation du chez-soi et peut-être du soi, des formes d'engourdissement, entre guillemets, qui pourraient nous faire, alors mourir avant l'heure, je ne sais pas, mais en tout cas qui pourraient ralentir le flux de la vie ou la pulsation de la vie dans notre domicile. Et en fait, ce qui fait un chez-soi, c'est pas seulement un ordre spatial. Le chez-soi, c'est un chez-soi vivant et en mouvement parce qu'il articule des lieux, des biens et des liens. Alors ça, moi, je reprends cette idée à un sociologue qui s'appelle Olivier Schwartz. Et en fait, la sociologie, elle propose à ce moment-là de considérer le chez-soi au-delà du logement, au-delà du domicile, même si, et par exemple dans les espaces contigus du quartier, dans l'espace du village, du hameau, mais aussi éventuellement dans d'autres espaces signifiants, les espaces de vacances quand ils sont fréquentés de longue date, les maisons de famille par exemple. Et puis l'idée, c'est aussi de regarder le chez-soi pas uniquement comme un lieu de repli, de mise à l'abri du monde, d'intimité, mais aussi comme un espace d'ouverture, d'espace d'ouverture aux autres, des autres intimes comme des personnes plus lointaines, de manière à la fois centripète, le chez-soi, c'est un accueil, un espace d'accueil, un espace de réception, et comme un espace centrifuge. Le chez-soi, c'est aussi un lieu à partir duquel explorer le monde extérieur, à partir duquel se confronter au monde extérieur, un lieu à partir duquel projeter des activités et nouer des relations. Donc, une espèce de base arrière aussi qui fonde la sécurité de soi dans le monde. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'au fil de l'avancée en âge, les logiques centripètes prennent un peu le pas sur les logiques centrifuges et qu'il y a moins notamment de contraintes à aller en dehors de chez soi. Et puis le dernier point, parce que je crois que j'ai déjà explosé mon temps, je suis navrée, le chez-soi suppose en fait, je pense, des enjeux de maîtrise et de contrôle. Être chez soi, c'est être maître ou maîtresse chez soi. Et lorsqu'il faut être aidé, lorsqu'on est contraint d'ouvrir son domicile, son chez-soi, un des grands risques, c'est de ne plus se sentir chez soi, c'est de se retrouver dépossédé de la maîtrise des lieux, de la maîtrise des temps, de la maîtrise des relations qui se déroulent dans le chez-soi. Et donc, ça amène en fait à réfléchir sur les conditions d'entrée dans les espaces privés et intimes, sur les motifs d'entrée et les motifs pour lesquels on entre chez les vieilles personnes. C'est très souvent, alors j'attends avec beaucoup d'intérêt l'intervention sur le théâtre à domicile, mais très souvent, le plus souvent, on entre chez les personnes âgées pour des motifs sanitaires. Et je trouve qu'il y a un vrai enjeu à la fois à entrer pour d'autres motifs chez les gens, avec leur accord, en leur laissant la maîtrise de cette entrée, et puis un vrai enjeu à les faire sortir. Et je pense que notre expérience successive des trois confinements ne peut que nous faire prendre conscience de l'ambivalence à rester chez soi entre la facilité à ne pas sortir, le manque d'envie, mais aussi le caractère débilitant de l'absence d'exploration du monde. Et je suis navrée d'avoir été un peu trop longue.
Merci beaucoup Isabelle. Alors maintenant, en fait, après ce petit éclairage, on voulait vraiment vous plonger dans les réalités de nos lieux de vie. Alors voilà, bienvenue dans le livre Adolphe Aurez. Donc, certaines personnes ici, on a entendu une personne de Craponne-sur-Arzon et Gib aussi qui va témoigner tout à l'heure. Donc voilà, on l'a dit tout à l'heure, c'est donc une communauté de communes qui représente 58 communes, très rurale, très isolée. On est à 1h30 de Saint-Étienne, à 1h30 de Clermont-Ferrand. Un territoire où il y a beaucoup de personnes quand même qui sont parties, pour beaucoup de jeunes qui sont partis vivre la grande aventure en ville. Il y a un gros exode rural dans les années 70-80. Et puis aujourd'hui, avec le Covid notamment, il y a un petit retour de nouvelles personnes qui viennent racheter ces maisons vides. Mais en tout cas, on est quand même dans un territoire où il y a beaucoup de problématiques de centre-bourg. Il y a d'ailleurs un parc naturel régional qui essaie vraiment de réactiver les centres-bourgs, puisqu'en fait, l'attractivité se fait plus dans les hameaux. Les gens viennent, même à la retraite, par exemple, viennent se réinstaller dans des endroits où ils ont parfois été enfants ou été en vacances, mais ils ont tendance à vouloir un peu s'isoler, aller dans des petites maisons isolées, mais pas forcément dans les centres-bourgs. Et donc, on se retrouve avec des centres-bourgs, notamment celui d'Ambert, où on a mené l'enquête, où il y a beaucoup de commerces qui sont assez vieillissants quand même, peu de reprises. Donc là, on est sur plusieurs projets pour essayer de les réactiver, mais notamment des commerces qui, en fait, qui procurent plein de services en fait, aux personnes âgées. Il y a par exemple le magasin de vêtements qui va directement faire les ourlets chez les personnes âgées. Les enfants peuvent emprunter des vêtements pour aller les faire essayer à leurs parents. Il y a plein de choses comme ça qui existent déjà, mais qui ne sont pas forcément valorisées, qui sont un peu au bout du bout, quoi. On sent que si on ne fait pas quelque chose, dans quelques années, ces services vont disparaître. Donc, nous, on s'est posé la question un peu du rôle du bourg, c'est-à-dire pour toutes… Donc, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans les hameaux isolés et qui sont venus nous voir, en fait, dans le cadre de ce projet. C'est notamment comme ça aussi qu'on a découvert le projet de Craponne, et qui se reposent la question, en fait, de centre-bourg comme lieu peut-être de répit ou comme une étape, en fait, de vie pour des personnes qui sont peut-être trop seules chez elles pour essayer de se rapprocher d'un endroit où ils pourraient à pied aller faire des courses, rencontrer des voisins, parce que la problématique du territoire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de petits villages qui se sont vraiment vidés et des services et de tout ça. Donc, en fait, des gens qui avaient des vies très pleines dans des villages qui pouvaient faire 300 ou 500 habitants et qui aujourd'hui se retrouvent avec à peine un bistrot, à peine ouvert, l'église, bon, il n'y a même plus de messe, il y a plein de choses qui ne sont plus vraiment là. Les enfants vont tous en voiture à l'école, ils ne vont pas forcément à pied. Donc, voilà, on sent qu'il y a de… Donc, nous, la question qu'on s'est posée, c'est comment le vieillissement pourrait aussi être un atout, en fait, pour se dire, peut-être, en fait, en pensant la ville pour les personnes âgées, en pensant des ressources, en pensant des nouveaux services, en recréant des petits journaux de quartier, en allant faire des choses, peut-être, en fin de compte, partir des vieux comme ressources pour redynamiser les bourgs, c'est peut-être un vrai enjeu. Voilà, plutôt que de recréer des EHPAD ou des lieux fermés, comment, si on réinvestit un peu tous ces lieux-là. Donc, ça, c'était une de nos entrées. Et l'autre, et je vais très vite passer la parole on va prévu de vous montrer une petite vidéo en fait qui présente le projet Marionnette à domicile, un extrait en fait d'un film qui a été réalisé l'an dernier autour de ce projet. Et donc l'autre entrée qu'on avait, c'était vraiment la présence forte d'acteurs culturels. Il y a un centre culturel, le centre culturel Le Bief, il y a une compagnie, donc la compagnie La Trouée, mais il y a aussi un réseau des médiathèques qui est très présent. Donc on a pas mal enquêté du côté des petits points lecture. Il y a 37 points lecture répartis sur tout le territoire où il y a tout un réseau de bénévoles, plutôt des personnes âgées, il faut le dire, ou en tout cas qui vieillissent et qui se posent des questions un peu de la suite. Et on s'est posé aussi la question dans le cadre du projet de se dire comment on peut peut-être se servir de l'appui de ces points bibliothèques dans les tout petits hameaux pour en faire des lieux ressources et des lieux de vie et des lieux très vivants qui viennent faire des choses. Donc pendant la crise Covid, ça je ne l'ai pas dit, mais il y a eu des réseaux de solidarité assez importants et en fin de compte, on s'est rendu compte que ça avait beaucoup rééclairé, remis en valeur les métiers du soin quand même. Ça avait aussi remis en valeur plein de petits acteurs des solidarités locales. Donc il y a un côté plein de nouvelles solidarités, notamment les mairies qui se sont réintéressées, plein de gens qui ont passé des coups de fil, qui ont été vraiment plus proches des personnes âgées. Donc quelque part, ça a aussi conforté de la solidarité locale et en même temps, d'un autre côté, on s'est rendu compte que les familles étaient parfois éloignées et ne pouvaient plus retrouver les gens. Enfin, bon, il y a eu bien entendu plein de constats aussi de choses qui étaient plus compliquées. Donc, je ne vais pas en dire plus. On vous propose de vous plonger un petit peu dans l'aventure de marionnettes à domicile. Donc c'est un projet, je ne l'ai pas dit, mais qui a été aussi monté avec le CLIC, le réseau local qui coordonne toute l'aide à domicile. Et a été financé par la Conférence des financeurs, qui est un organisme qui essaie d'aider justement au maintien heureux à domicile.
À mon avis, c'est cette maison-là.
Bonjour.
Bonjour, toi.
Enchantée, je vous la bise.
Ah ben, bien sûr. C'est en Auvergne. J'ai jamais été si heureuse.
Ah, et avant, vous étiez où?
Dans la région parisienne, le PH, Châtarnou-en-Yvelines.
Tour,
il y a... Oh, moi je tourne.
C'est bien.
Ah, bah, il est où mon assistant, là? Ça, pas du tout.
Émission Tout ou Rien, antenne.
Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant au sommet de notre manifestation. Et monsieur le ministre fédéral des Affaires étrangères... Monsieur Gagne, mais il est temps de commencer. Alors, partez!
Oui! Aucun candidat n'avait jamais couru aussi vite!
Ne vous trompez pas, tous les trois sont arrivés en même temps près d'un canapé. Ça rapporte à chacun de ces messieurs 300 points!
Non, enfin, c'est un tournoi de purin authentique. Hein. Pas lavé, ça pue encore tout à fait convenablement. Il est probable que la puanteur soit encore parvenue jusqu'à vous, mais...
Au sûr de toutes les voix.
Oui. Non. Ben oui. J'étais à l'usine aussi. À Arlan et puis après à Lègue aussi.
D'accord.
Dans l'usine de chaussures.
À long terme, ça doit être difficile de faire toujours les mêmes gestes, etc.
Ah ben oui, pour mettre les mortaises, là, pour faire les trous.
Ouais.
C'est ça, pour faire les trous aux semelles.
Ouais.
Oui, après, ouais, c'est les croix.
Hey, je m'étais mariée pour 2 mois. Je suis restée 28 ans. Parce que... Ah oui, mais quand t'es une gamine, tu crois pas. On croit pas quand on est gamine que la vie de mariage, de couple, ça peut être ça. Moi, j'étais en restauration.
Ah oui, c'est vrai, le troquet.
Oui. J'ai 14 ans demain, on me demande de ce que je fais, et j'y retourne.
Ouais, ça te plaisait.
Ah oui, ce qui m'a fait, moi, ma force, c'est que quand tu as des permis de conduire, et puis que tu as une grosse santé, c'est que moi, j'allais travailler avec mes 6 gosses au départ. Avant que j'ouvre le bistrot à mon compte, je faisais la cantine aux gosses à l'école. J'ai toujours voté à gauche. Hein. D'ouvrière, ouais, ben tu sors d'une famille nombreuse, tu défends ta condition ouvrière.
C'était une coiffure à la Bardo.
Oui, ben, c'était ces années-là, quand je suis arrivée ici. Les gens, ils se méfiaient de moi. Une jeune femme, je lui dis, mais pourquoi qu'ils se méfient de moi? Ni une ni deux, je prends mon cul par lance. Je monte là-haut. Je dis, madame Mottet, il y a quelque chose qui ne va pas.
Je ne sais pas où elle sort
ça. J'ai dit, je vois que vous vous méfiez de moi. Je suis ni voleuse, ni menteuse. Et en plus de ça, si j'avais besoin, je vous demanderais, mais je ne vous prendrais jamais rien. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous vous méfiez de moi? Mais elle me dit, mais pourquoi vous êtes arrivé ici? Eh bien, j'ai dit, parce que je suis une putain, salote, j'ai un bâtard, enfin, j'y raconte le chapitre. Elle me prend dans ses bras, des larmes coulent, puis elle me dit, mon petit, ben, je suis comme vous. Ma Ninette, je l'ai vu comme vous.
Christiane, tu veux quoi?
Christiane, qu'est-ce que tu veux?
Un kir?
Oui.
Ah, oh, vas-y, merde, j'en bois un. Hein. C'est du cassis maison, moi. Ah, bah, si c'est du cassis.
Tu vois, c'est bien discuter avec les gens, ça fait tellement plaisir de discuter, de leur améliorer leur quotidien, tout ça, d'être joyeuse, souriante, enfin bon, non, c'est vraiment un bon métier, quoi. Donc souvent, nous, en tant qu'auxiliaire de vie, on fait des toilettes.
On travaille souvent ensemble.
Pas souvent simple, ça devrait être simple, mais des fois, c'est pas très simple. Mais souvent, le SIAD, quand il y a des soins particuliers, eux, ils prennent le relais.
Je dis, il reste 4 sous, vous vous disputez pas, vous les séparez, vous faites une bonne java, vous faites un bon gueuleton, vous rigolez bien, comme moi j'ai rigolé toute la vie.
Voilà un petit aperçu. C'est un film qui a été réalisé par José Miguel Carmona et qui a suivi donc la compagnie La Trouée dans son parcours. Donc peut-être, Jip, tu peux prendre un peu la parole. Je ne sais pas s'il y a des questions d'emblée ou si tu veux commencer à expliquer un petit peu plus ce que vous avez fait.
Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé deux spectacles pour aller jouer à domicile. On ne les a pas forcément pensés, ces spectacles, pour les personnes âgées. Et après, on s'est dit, par contre, que c'était très bien de rentrer au domicile. Donc voilà, l'objet, il était ce qu'il était. Là, c'était sur la télévision. On s'était dit, tiens, ça va marcher, un objet sur la télévision. On va rencontrer des gens, on va aller chez les gens et puis ils auront toujours la télévision allumée. On s'était complètement trompé. Les télévisions n'étaient pas allumées chez ces gens. Ils étaient beaucoup plus intéressés par leur jardin, par leur potager, etc. Et donc, le principe, c'était très simple. C'est qu'on arrivait en 3-4 minutes, le temps de dire bonjour, de s'installer. Le spectacle dure très, très peu de temps. C'est des spectacles qui durent un quart d'heure, 20 minutes maximum. Et après, par contre, on restait un long moment chez les gens, donc au moins une heure. Et la discussion filait sur la vie des gens. Voilà. Ce qu'il y a eu de beau, c'est qu'en fait, Isabelle tout à l'heure disait, les gens, ils sont maîtres et maîtresses chez eux. Là, ils sont hôtes et hôtes. C'est-à-dire qu'à la fois, ils accueillent, mais à la fois, ce qu'on demandait aux gens, c'était d'inviter quelqu'un pour partir. Donc, on venait pour jouer chez les personnes qui habitaient chez elles, mais qui elles-mêmes avaient l'occasion d'inviter un ou deux voisins. Et là, dans l'extrait qu'on voit, il y a deux voisines, entre guillemets, mais il y en a une qui est vraiment celle qui a fait le trajet sur la route, qui a traversé la route, qui a mis son petit collier pour la même occasion, par la même occasion. Et puis, l'aide à domicile qui s'occupe d'elle. Et parce que voilà, ce qu'il faut dire, c'est que comment rencontrer les gens, comment aller chez les gens, la difficulté, c'est de les trouver, parce que pour eux, c'est difficile d'ouvrir leur porte à des inconnus. Et donc, le lien, il se fait essentiellement, pour nous, en tous les cas, ça a été grâce aux aides à domicile. Dans la vallée d'Ambert, les aides à domicile, le système, ça marche beaucoup grâce à du bénévolat. C'est les bénévoles qui font les tournées, etc. Et donc, voilà notre expérience. Si je voudrais juste te dire une chose quand même, c'est qu'effectivement, on allait chez les gens, soi-disant, le cadre, c'était un cadre pour aider les gens à rester chez soi, chez eux. Rester chez eux, c'est, avec une visite, c'était un peu compliqué. Alors, donc, ce qu'on avait fait, c'était quand même, il y avait tout le temps de la rencontre pour les trouver, pour accepter le fait qu'ils ouvrent leur maison, ensuite la visite. Et après, pour histoire que ça signifie un petit peu quelque chose, on leur a écrit un petit courrier à chacun qui était personnalisé, voilà. Histoire que ça tire un petit peu la chose. Mais autre chose qui est quand même très importante, c'est que vraiment dans cette expérience, tout ce qui est ce qu'on nomme aidant, effectivement, on s'est aperçu qu'ils étaient en grande difficulté aussi. Et que souvent, pour les personnes qui aident ces personnes à domicile en difficulté, cette venue-là, ça leur faisait du bien aussi. Voilà.
Merci, Jib.
On va continuer avec le territoire tourangeau et avec un focus sur le quartier du Sanitas, donc qui est un quartier très jeune, avec beaucoup de population jeune, beaucoup de multiculturalité. C'est un quartier qui est très en mouvement aussi au niveau de ses mutations urbanistiques, puisqu'on est en plein rue.
Non.
Et peut-être s'il y a des micros ouverts, si vous pouvez les couper. Merci. Et donc, on est sur un réseau d'acteurs qui est très fédéré depuis déjà longtemps, entre autres autour d'un dispositif qui s'appelle le PST et qui regroupe donc de nombreuses structures locales, associatives et les différentes structures. Je vais retirer ça, ça résonne. Et donc ces différents acteurs ont pu pendant la période du Covid être d'autant plus efficaces parce qu'il y avait déjà c'était déjà fédéré, donc c'est vrai qu'ils ont pu davantage répondre à cette situation d'urgence qui n'a pas été forcément
le cas dans d'autres quartiers. Dans d'autres quartiers prioritaires de Tours et donc dans les acteurs qu'on a pu enfin qui font partie de donc de ces réseaux donc ça va autant de la régie de quartier Régie Plus qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui mais qui nous ont beaucoup accompagnés dans nos échanges le centre social Pluriel qui est en plein cœur du quartier qui est très actif également ça embarque aussi les bailleurs sociaux, donc là, c'est Tour Habitat qui est le principal bailleur social du quartier. Et après, par exemple, la Confédération nationale du logement, la CNL, enfin, voilà, qui sont aussi très présents. Et donc, dans le quartier, on observait on est dans un niveau de précarité qui est assez important et des contraintes aussi, un impact assez important de la crise sanitaire sur la population et un isolement de la part des seniors assez important également. Et donc pendant le confinement, si tu peux juste passer, pendant le confinement, il y a eu différentes actions qui se sont mises en place. Donc par exemple, donc il y a eu de nombreux appels qui ont été passés aux personnes les plus isolées. Donc ça, c'est des choses qui ont été mises en place à la fois par les mairies, par de nombreux centres sociaux. Enfin voilà, c'est le type d'actions assez basiques qui ont pu se développer assez largement. Également, les distributions d'attestations lors de maraudes. Donc là, par exemple, le centre social a été assez actif sur ce type de proposition. Il y a eu aussi un journal de quartier qui a été mis en place, donc qui existait en version numérique et qui là, donc ça a été l'occasion de le ressortir en version papier pour être plus accessible auprès d'un plus large spectre de population. Et donc là, vous avez devant les yeux un Trello qui est un outil en ligne. Qui est un outil de gestion de projet basique et donc autour duquel les membres du plan social du territoire, donc du PST, se sont retrouvés et ont pu au fur et à mesure y déposer leurs différentes observations face au public avec lesquels ils travaillent habituellement et on a pu comme ça les uns les autres se coordonner sur l'identification de ces besoins et passer plus rapidement à l'action. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc la première colonne, c'est tout ce qui est outils de communication. Donc là, ça nous a invité plutôt à se lancer sur ce journal papier. Il y a eu des distributions d'ordinateurs également, des démarches administratives. Enfin, voilà, il y a eu tout un tas de besoins qui ont été identifiés. Les seniors ne sont pas au cœur de ces besoins-là, mais par contre, c'est vrai que ça a permis quand même de rebondir sur d'autres aspects. Donc, par exemple, la régie de quartier, donc Régie Plus, en collaboration avec le bailleur Tour Habitat, ont mis en place un listing d'urgence pour identifier un ensemble de seniors de plus de 80 ans, donc dits isolés, et pour pouvoir aller les questionner sur leurs besoins. Et ça a été mis en place très rapidement. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que les retours de ce type de dispositif ne sont pas forcément évidents à traiter, parce qu'en effet, dans cet ensemble de personnes identifiées, il y a eu des besoins auxquels on a pu répondre, mais un grand nombre de ces seniors aussi n'ont pas l'habitude de communiquer sur leurs besoins. Il y a un certain frein ou une certaine humilité ou timidité parfois à partager les besoins. Donc, c'est pas toujours si simple. Donc, voilà, ce cadre nous a permis de poser un peu ce constat sur comment ça se passe dans ce quartier et dans cette période de crise. Donc, par rapport à l'équipe donc Tourangelle, constituée de Ninon, de Fanny également et d'Antoine, donc on a pu intervenir sur le terrain donc à la fois auprès de personnes âgées en allant à leur domicile et en les rencontrant aussi dans la rue. Enfin, voilà, on a essayé d'ouvrir un petit peu le type de rencontre. Et on a également rencontré différents professionnels. Et voilà, donc on s'est rendu compte que on a pris donc deux axes qui nous ont particulièrement intéressés. Il y a deux axes qui nous ont particulièrement intéressés, ce sont ceux des métiers. Donc, d'après les observations qu'on a pu faire, l'articulation entre les métiers liés au social et les métiers liés au sanitaire et au médico-social ne sont pas forcément... sont pas forcément bien coordonnées. Ce sont des pratiques qui sont pas évidentes au quotidien, et donc chaque secteur a plutôt tendance à rester un peu en silo fermé, même s'il y a des tentatives évidemment hein, de collaboration. Mais voilà, la difficulté du terrain au quotidien et encore plus en période de crise fait que ce n'est pas du tout si évident. Donc ça nous a semblé intéressant de plonger dans ces réalités là. Puisque déjà par retour des seniors qu'on rencontrait, on voyait bien qu'il y avait soit une méconnaissance, soit une difficulté à comprendre toutes les distinctions des différentes aides auxquelles ils peuvent accéder. Et parce que dès qu'on rentre un peu dans la sphère des métiers, on voit bien qu'on rentre aussi dans tout un tas d'acronymes et un panel d'acteurs assez variés. Donc ça nous a intéressé de commencer à lister, identifier, faire une cartographie des acteurs, des professionnels autour de l'accompagnement et du soin des seniors. Et donc, on a pu rencontrer tant des personnes liées à la DMR, l'assistante sociale, le SIAD en tant qu'aide soignante, les HAD qui s'occupent donc de l'hospitalisation à domicile, conseillère autonomie qui dépendent du département, l'appui santé 37 qui vient en renfort des professionnels dans des cas où d'autres professionnels n'arrivent pas à résoudre certaines situations, ils viennent apporter leur regard pour démêler certaines situations un peu plus complexes. On s'est également rendu dans les résidences autonomie. Et donc voilà, là aujourd'hui, on se questionne et on ouvre donc cette problématique plus largement pour voir comment ces différents aspects s'articulent, quels manques on peut trouver dans ces différentes approches, et comment est-ce que la crise, quels ont été les déplacements dans le cadre de la crise sanitaire. Voilà donc les pistes là qu'on est en train d'ouvrir, de dessiner. Les pistes qu'on est en train de dessiner sont de proposer un schéma sur l'ensemble de ces métiers, pour avoir une approche plus générale et peut-être de matérialiser cela sous des formes accessibles aussi au public, sous des formes ludiques, par exemple sous une forme de jeu de cette famille, voilà, qui reprendrait un peu les différentes situations types pour aider les habitants âgés à voir un peu dans quelles sont les directions qu'ils peuvent prendre pour qu'ils soient adaptés à leur situation. Donc voilà, donc là, le premier champ de recherche que l'on a souhaité explorer, donc c'est la question des métiers. Et le deuxième champ de recherche qu'on a souhaité explorer, ce sont toutes les solidarités formelles et informelles, puisqu'on a pu voir qu'en relais des institutions qui ne sont pas toujours aussi très bien connues de la part des publics, évidemment, il y a un relais important de la part tant des familles, des amis, parfois des voisins, ou parfois ça peut être des soutiens communautaires. Mais voilà, ces soutiens ne sont pas évidents à évaluer, à quantifier, à voir à quel point ils ont pu avoir un impact sur le quotidien des personnes vieillissantes et en particulier sur cette période de confinement. Et donc voilà, donc dans notre recherche action, on a essayé de proposer différents outils d'exploration, comme par exemple ici, ça c'est la restitution d'un portrait chinois où on posait des questions qui faisaient appel à l'imaginaire pour que les personnes qu'on rencontrait nous partagent leur vision du quartier. Donc, par exemple, si le quartier était un métier, si le quartier était un objet, si le quartier était une recette. Donc, voilà, on leur demandait un petit peu de faire appel à un langage plus imaginaire pour parler de leur quotidien. Et voilà, on a commencé à mettre en place aussi des portraits d'habitants, réunissant un peu les différentes caractéristiques qu'ils ont pu nous partager sur leur quotidien. Et donc, on peut voir beaucoup dans les échanges qu'on a pu avoir au fil des semaines, on a observé beaucoup de disparités selon, évidemment, les situations économiques, selon l'entourage, selon le métier qu'ils avaient auparavant. S'ils étaient eux-mêmes aidants auparavant, évidemment, on a une posture qui n'est pas du tout la même qu'une personne qui n'a jamais été auparavant dans ce type de positionnement. Et dans les aidants, en effet, là je rejoins totalement l'observation qui a été faite tout à l'heure. En effet, de nombreux aidants expriment aussi leur épuisement. Sont des relais, on peut le voir, qui peuvent être parfois très lourds. Et donc là, on a constaté, par exemple, de nombreuses cohabitations un peu forcées entre parents et enfants, des enfants étant au chômage suite à la crise sanitaire, rejoignent le domicile de leurs parents. Et voilà, les parents se retrouvent soutien d'une situation qui n'est pas évidente à gérer, et les retours de cohabitation qu'on a pu avoir sont assez difficiles. Voilà, donc on a vraiment une grande disparité, donc on continue cette exploration pour affiner ces observations variées sur le quartier.
Est-ce que Claire Autant est parmi nous et est inspirée pour prendre la suite?
Voilà, donc moi je vais vous parler. Alors malheureusement, je ne suis pas avec Malika Lebal, qui est la collègue professionnelle avec qui on a travaillé sur ces questions d'action communautaire et qui est quand même l'actrice principale de cette histoire-là. Donc peut-être en quatre points, vous présentez un petit peu ce projet de Globe 42 de santé et communautaire, préciser un petit peu du coup le diagnostic et les choses qui avaient été identifiées dans la recherche action sur un volet problème et puis sur un volet ressources, ce que disait Isabelle Malon tout à l'heure me semblait très vrai, de voir les différents aspects. Vous dire un petit peu quelles sont les actions de Globe 42.
Donc, peut-être Oui. Juste pour introduire, c'est vrai que ce qu'on trouvait intéressant, c'est que dans cette question des solidarités formelles et informelles qui sont passées, donc là on change de quartier, on va plutôt à Saint-Étienne, mais on trouvait intéressant d'avoir un éclairage sur vraiment cette approche, en effet, plutôt autour de l'action communautaire. Voilà.
Oui, tout à fait. Donc effectivement, Malika a été formée à la santé communautaire d'abord, et puis plus largement à l'action communautaire, donc qui est vraiment une démarche qui consiste à partir avec les personnes, des questions et des problèmes qu'elles se posent. Et ce qui fait communauté, c'est le partage de ces problèmes communs qui font l'objet. Là, elle a travaillé sous un format de recherche-action, donc avec des femmes âgées migrantes, beaucoup d'origine algérienne, puisqu'elle-même est d'origine algérienne. Et donc, c'est aussi passé par ces sociabilités informelles, ce travail de recherche. Et puis ensuite, une fois que sa structure était montée, elle a travaillé, elle a refait une recherche dans le cadre des travaux qui sont cités là dans la diapo, plutôt sur la question de l'accès au droit, donc en voyant un petit peu finalement qu'est-ce qu'ils avaient mis en œuvre dans le projet de Globe 42. Donc elle est assistante sociale de formation, mais elle était aussi fortement militante du droit des migrants, et elle a réuni un peu ces deux approches dans ce projet-là. Donc avec l'idée de comprendre les problématiques particulières des personnes âgées migrantes, et particulièrement des femmes, mais pas seulement, et puis de créer un lieu à destination de ce public qui rencontrait quand même pas mal de difficultés dans l'accès aux droits et aux soins. Donc, dans l'analyse qui est faite, ce qui a été identifié, c'est évidemment les personnes migrantes rencontrent les mêmes difficultés de vieillissement que d'autres, mais va s'ajouter ou se se complexifier un petit peu leur situation par rapport aux inégalités vécues et à un ensemble de spécificités de leur vie entière qui vont se manifester par des problématiques particulières dans la vieillesse. Donc, un premier point qui est beaucoup des gens qui viennent à Globe 42, alors plutôt des hommes, là pour le coup, sont des migrants qui n'ont pas forcément le choix de faire venir leur famille, donc ils sont un peu tiraillés entre leur projet migratoire et leur vie ici, qui finalement a duré, et puis ils ne rentrent plus, et leur situation notamment administrative peut être particulièrement complexe, parce que selon leur date de venue en France et le statut de leur migration et leur statut en fonction de la situation de l'Algérie a été différent selon les uns et les autres. Et du coup, ils se trouvent des fois dans des situations un peu de non-droit et de perte de leurs droits s'ils retournent trop longtemps dans les pays d'origine. Donc ça, c'est une première problématique importante, avec parfois de la discrimination, clairement, ou de la suspicion sur est-ce que c'est bien un résident en France. Donc ça complique singulièrement toutes les démarches, avec des choses assez ubuesques parfois. Par ailleurs, effectivement, puisqu'ils ont leur famille à distance, pour certains, il y a parfois des situations un peu de solitude ou de personnes âgées qui étaient restées longtemps dans des foyers de travailleurs. Donc ça, c'est une problématique particulière. Et puis, il y a des pathologies et des difficultés qui sont liées aux vies professionnelles que ces personnes ont eues, donc avec plutôt des travaux lourds et difficiles, ou des travaux domestiques, des emplois subalternes où les corps ont été très sollicités et sont souvent fatigués, abîmés. Et puis, il y a évidemment le problème majeur qui est le problème de la langue et de la compréhension de la... Même pour quelqu'un qui est francophone de départ, tous les sigles et les dispositifs, comme ça vient d'être dit à l'instant, sont assez opaques. Mais là, ça prend des proportions importantes. En regard de cet aspect plus négatif ou des difficultés spécifiques, le travail qui a été fait avec Malika, c'était vraiment d'identifier les ressources et les résistances, les ressorts spécifiques, notamment des femmes. Un premier travail qui a été fait qui était vraiment intéressant pour le groupe et puis qui se continue au fil de l'arrivée de nouvelles personnes à Globe 42, c'est de prendre conscience en fait du travail de care qui est fait, donc de soins, le fait que ces femmes ont souvent dans leur vie et continuent pour beaucoup à avoir finalement un rôle d'accompagnement, de soins de leurs proches, de leurs enfants au départ et puis de leurs voisines, de leurs amis, et donc finalement elles ont acquis aussi un certain savoir-faire et une connaissance des dispositifs, des acteurs, des ressources qu'il peut y avoir dans le territoire. Et il y a là quelque chose où elles sortent de leurs problématiques personnelles et dans le travail collectif, elles identifient aussi leur savoir-faire, elles se transmettent des trucs, des infos, etc. Et là, il y a une vraie ressource collective du fait de ces rôles où elles sont particulièrement sur ces fonctions de soins, d'aide, de ménage aussi, hein, l'aspect domestique, mais là qui prend une autre dimension et qui est valorisé. Un autre point important qui a été évoqué tout à l'heure sur les soutiens communautaires, où finalement, une bonne partie des personnes qui sont dans ce... qui viennent à l'association, mais au-delà, hein, dans ce public, finalement, sont moins isolés. Alors, c'est une association qui est basée dans le centre-ville de Saint-Étienne, mais qui rayonne bien au-delà du quartier, hein, des gens de toute la métropole stéphanoise qui viennent. Elles font communauté et les rituels liés à l'islam notamment, mais culturels, qui donnent un rôle particulier aux femmes, sont repris aussi au sein de l'association, mais c'est déjà dans leur vie quotidienne une ressource pour lutter contre l'isolement. Et ce soutien communautaire, on va le retrouver beaucoup dans les relais d'information, l'aide informelle un peu spontanée que les personnes vont se donner dans un cabinet médical où elles voient quelqu'un en difficulté ou dans une administration, quelqu'un a des difficultés de traduction. Il va y avoir une aide comme ça qui va être proposée. Donc là, il y a un soutien et des ressources et des savoirs aussi de quel est le médecin qui accepte la CMU, quel est l'assistante sociale qui va aider à monter un dossier qui a une chance de passer. Enfin voilà, aussi tout un savoir un peu de comment naviguer dans les institutions qui est très important. Et puis par rapport à ce constat, hein, l'idée de Globe 42, c'est de proposer un espace d'accueil pour... Alors, vraiment d'abord l'accueil dans de la traduction, de l'accompagnement administratif, de l'aide à comprendre les documents, la mise en place d'ateliers numériques pour accompagner sur l'accès à toutes les interfaces aujourd'hui en ligne, mais aussi plus largement pour pouvoir communiquer à distance avec des proches. Mais il y a aussi un atelier de recyclage d'appareils électroménagers. Il y a un repas commun tous les jeudis midi qui permet que les personnes puissent venir comme ça manger, faire la cuisine, partager un temps et qui est un temps informel extrêmement important pour permettre que s'expriment des difficultés, des questions, des ressources aussi, des projets, des idées dont l'association va ensuite se ressaisir sur des actions collectives, sur des projets avec, par exemple, la mise en place d'une action avec la CPAM sur la question de la mise en place de l'aide à la mutuelle complémentaire, hein, où il y a eu une session du coup d'information spécifiquement dédiée pour les personnes migrantes avec des informations qui étaient vérifiées, partagées en amont, alors que souvent, les personnes, quand elles vont au guichet ou qu'elles sont par téléphone, elles ont des informations contradictoires et qui fait qu'elles partent dans des mauvaises pistes de dossiers. Donc, voilà un peu toutes les actions qui sont menées. Et puis, cette année, dans le cadre d'un travail avec les étudiants du master dont je m'occupe, là, sur les politiques sociales et développement territorial, on a refait le lien aussi avec Globe sur un projet d'une association qui s'appelle Dana Ecker, sur l'humain dans la santé, et les étudiants travaillaient sur la question des aidants. Et donc, ils sont allés aussi rencontrer Globe 42 pour voir la difficulté d'identification, d'auto-identification des aidants et leur difficulté aussi à aller bénéficier des formes d'aide, de soutien, de répit, des droits par rapport aux situations professionnelles quand c'est des personnes plus jeunes, etc. Et donc là, il y a un chantier qui a à peine commencé à être identifié, mais qui devrait s'ouvrir avec Globe prochainement.
Très bien, merci pour cet éclairage. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on vous entende. C'est vraiment, c'est un petit peu tard, mais peut-être on peut prendre quelques réactions. Et voilà, si certains veulent revenir, on fera un petit focus sur WeMove. En attendant de voir si Laure peut nous rejoindre et connecter son micro.
Sinon, moi, je peux prendre le relais très rapidement, présenter l'action très rapidement. Ça sera beaucoup moins précis que Laure, mais en tout cas, ça pourra donner un peu une idée. Donc là, c'est vrai que dans le quartier du Sanitas, on a pu voir, là, d'autant plus avec le confinement, beaucoup de craintes de la part des publics seniors, qui même des publics qui auparavant pouvaient être à l'aise à ouvrir leurs portes aux voisins, là se freinent, sont largement freinés par le contexte. Et puis ça faisait déjà quelques années que dans le quartier on nous a partagé moins de relations, moins de convivialité entre les habitants, qui sont liés aussi à des mouvements, à certains mouvements communautaires. Enfin, voilà, donc ça n'a pas été clairement identifié, mais en tout cas, on a eu ce retour-là que depuis 4-5 ans, les gens se disent beaucoup moins bonjour, par exemple, dans les immeubles, ce genre de choses. Je parle de ça parce que du coup, un des relais primordiaux contre la lutte, par rapport à la lutte contre l'isolement, c'est vraiment ce lien social et une reconnexion des personnes seniors et de les inviter à sortir de chez eux, de faire ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, de les reconnecter à un environnement urbain et social environnant. Donc là, les actions de WeMove rentrent totalement dans cette démarche puisque ils accompagnent donc sur cette question de la mobilité à travers différents types d'actions qui vont du conseil jusqu'à l'accompagnement et qui peuvent inviter à la marche ou aider accompagner donc les publics vers les mobilités à s'approprier davantage les transports en commun environnants. On voit à quel point ce type de démarche est importante et très simple, mais c'est vraiment ce mouvement d'aller vers le public et de pouvoir faire une proposition sur mesure qui répond déjà en premier lieu à ce besoin, à cette lutte contre l'isolement. Est-ce que vous avez peut-être des questions, des rebonds par rapport à... Peut-être Isabelle Malon, peut-être par rapport aux différents...
Moi j'ai plein de questions, mais que je réfrène, et voilà, parce que je suis un peu contrainte, comme vous tous, par le temps. J'ai une question, parce que moi, je suis très familière des questions de recherche, et en fait, une des questions que je me pose, c'est à propos de la dimension recherche-action, et notamment des effets, entre guillemets, de la recherche-action. Voilà, j'ai adoré les présentations d'opérations de recherche comme d'activités, comme les spectacles à domicile. Une des questions que je me pose, et peut-être qu'elle est trop précoce, hein, c'est comment en fait, parce qu'on voit bien que la recherche, ça anime aussi, ça remet de la vie, ça remet de l'intérêt, ça distingue, ça invite les gens à sortir de chez eux, à faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, et être vivant, c'est ça aussi, je pense. C'est continuer à être étonné, à être bousculé, voilà. Donc, une de mes questions, mais c'est sans doute tout au long du projet que ça va se construire, c'est voilà, qu'est-ce que ça met en mouvement, en fait, la recherche, et comment le mouvement dure. Enfin, voilà, mais c'est des questions que je me pose tout le temps, hein, de manière générale, à propos du vieillissement, puisque, en fait, ça suppose de faire avec le temps qui passe, mm-hmm. avec les opportunités. Et puis derrière, j'avais une autre... Alors, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est une remarque sur qu'est-ce qu'on attend, en fait, de... je me joins, en fait, à l'appréciation hyper positive de vieillir vivant, notamment par rapport à bien vieillir, parce qu'elle est beaucoup moins stigmatisante. Si on vieillit bien, c'est qu'on vieillit mal. Et en fait, vieillir vivant ne préjuge pas des différentes formes de vie, en fait, qu'on arrive à déployer. Et ça y est, j'ai perdu ce que j'avais envie. Ah oui, ici, voilà. Vieillir vivant. Et en fait, dans l'idée du bien vieillir, du chez-soi, etc., il y a toute une dimension heureuse, harmonieuse. Voilà. Et une des choses que j'ai beaucoup appréciées sur les questions que vous posez de manière générale, hein, sur vieillir vivant, c'est la question de l'humour et la question, en fait, des aspérités de la vie sociale. Et je pense qu'on est vivant quand il y a un peu d'aspérité aussi. Et qu'on va considérer les gens sans leur faire violence, sans leur faire contrainte, etc. Mais en allant regarder aussi ce avec quoi ça frotte un peu, ça coince un peu, et dans la manière dont ça peut faire réagir aussi.
Je dis bravo et merci, c'est très riche.